Fred Film Radio, Festival de Cannes, France.
Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Aujourd'hui, je suis avec Aude Léa Rapin qui présente Les héros ne meurent jamais à la Semaine de la Critique. Bonjour Aude.
Bonjour.
Alors ce film, qui est donc en projection spéciale, un premier long métrage, est un film qui se passe en grande partie dans les Balkans, mais qui commence à Paris, avec un personnage joué par Adèle Haenel, qui est réalisatrice, et un ami à elle qui a rencontré quelqu'un qui lui a donné un nom serbe et qui semble suggérer qu'il était un personnage qui est mort le jour même de sa naissance. Et croyant être la réincarnation, peut-être d'un héros serbe, peut-être d'un criminel, voilà que les deux amis accompagnés d'une preneuse de son s'engagent dans une épopée cinématographique sans savoir vraiment ce à quoi elle va aboutir et ce qu'ils vont découvrir sur place. Alors c'est... je sais que vous avez... comme le personnage d'Adèle Haenel, un rapport tendre, enfin étroit avec les Balkans. Mais comment vous avez eu l'idée de l'unir avec cette histoire de réincarnation et d'aventure filmique ?
C'est une bien bonne question en fait. Le point de départ m'était très clair, le point d'arrivée l'était beaucoup moins, un peu comme dans le film en fait. J'ai suivi la même trajectoire intellectuelle que le film. Mais je crois qu'il y avait un désir très fort comme ça d'aller brasser une petite histoire face à la grande histoire, celle qui a agité la Bosnie-Herzégovine dans les années 90. Et il y avait l'envie comme ça d'aller chercher... un fantôme dans un pays hanté par les fantômes d'une guerre récente, et notamment dans une région précise. Le film traverse plutôt la région de Srebrenica, qui a connu un massacre, un génocide le 11 juillet 1995, et où en fait un tas de gens dont les corps n'ont toujours pas été retrouvés. Et du coup, ce film traverse comme ça. Eux cherchent la tombe d'un homme qui aurait soi-disant existé, pendant que d'autres gens autour d'eux cherchent aussi leur mort dans les montagnes autour de Srebrenica. Et je trouvais que les quêtes se répondaient, en fait. En tout cas, j'avais envie de les faire se répondre.
Alors, dans quelle mesure vous avez scénarisé, si vous êtes allé aussi comme Alice, en exploration, au détour des bifurcations et des personnages qu'elle croise, dans quelle mesure vous avez préparé avant le périple et scénarisé, en fait, ce qu'on voit à l'écran ?
En fait, c'est un film de gestes très assumés de premier élan. C'est-à-dire que le scénario s'est écrit en un geste comme ça, sur quelques semaines d'écriture. Et je suis partie en tournage avec ça. En fait, ça a été l'objet qui nous a permis de débloquer des financements et l'objet qui a permis à Adèle, à Jonathan ou à Antonia, les trois comédiens, de se greffer à cette aventure, de l'incarner, et ainsi que mon équipe technique. Et avec l'idée qu'on revisiterait au tournage ce qui avait été écrit très rapidement. Comme ça. Et c'est exactement ce qu'on a fait en fait. En suivant, le scénario a servi d'une sorte de boussole, comme ça, un cap qu'on a gardé. Et on a beaucoup réécrit au plateau en fait. C'est un travail d'improvisation, un travail de réécriture ensemble, collectivement, même avec l'aide du chef opérateur, puisque mon chef opérateur dans le film est aussi le chef opérateur du film dans le film en fait. Donc c'était un espèce de quatrième personnage de cette histoire. Donc il conférait une place spéciale à cette caméra et qui nous a permis de d'en jouer, qui a aussi posé des limites de mise en scène par le fait qu'il fallait que ça ressemble à une sorte de documentaire. Ce film est un documentaire qui ne porte pas son nom, un documentaire joué, un documenteur peut-être on peut appeler ça, mais ça reste une fiction. Et puis il y avait l'envie comme ça que un récit très oui, qui démarre comme un film, soit un film de SF, soit un documentaire, soit happé comme ça progressivement par la fiction. Et voilà ce que je peux en dire, en tout cas, sur l'aspect de l'écriture.
Bah justement, j'allais dire, avec ce dispositif de départ qui semble assez simple, en fait, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que le film est très complexe, puisque finalement, le geste cinématographique semble se définir constamment, tout au long du film, se redéfinir.
Oui, mais je crois que c'était l'idée, en fait, d'un film vif, comme ça, un film où on mélange les genres, on mélange les tons... peut-être que c'est un film qui colle très, en tout cas à mes yeux, hein, qui est très proche de ce qu'on peut vivre quand on s'engage dans un voyage ou dans une aventure telle qu'elle soit. En fait, on part sans connaître le scénario qui s'écrit, il n'est pas écrit à l'avance. Et il y avait envie, est-ce qu'on peut faire ça encore en fiction, quoi? Est-ce qu'on peut avancer en défrichant au fur et à mesure d'un tournage? Est-ce qu'on peut avancer Je crois que la réponse, elle est oui et elle est non. Je ne sais pas si je referais ça, par exemple. C'était très riche à vivre. C'était une très belle aventure de cinéma, je pense, collective. Mais c'est une grosse prise de risque aussi de faire ça, parce qu'on aurait pu aussi ne pas retomber du tout sur nos pattes. On aurait pu s'égarer en cours de route. En désacralisant comme ça la place du scénario, c'est prendre le risque aussi d'aller un peu dans tous les sens. Voilà ce qu'on a essayé de pas faire et on s'est fait vivre comme ça une expérience, artistique, intellectuelle, très riche. riche en fait tout au long de ce procédé de fabrication.
En tant que jeune réalisatrice, je trouvais intéressant aussi que vous parliez de la mise en scène, parce qu'en fait, on a des alternances entre des moments où le personnage d'Adèle Haenel veut de la spontanéité et elle veut que le moment arrive sur le coup, et des moments où elle dit on refait, ou alors carrément où elle met en scène avec du costume ou genre, sans en dire trop. Donc ça, est-ce que ça vous avait fait mieux comprendre aussi votre métier ?
Oui, je ne sais pas, ça m'a fait mieux comprendre mon métier, mais ça me permet de nous le montrer, par exemple, de sortir quelques... Je ne sais pas, parce qu'en fait, en même temps, ce qu'elle fait dans le film, c'est exactement ce qu'on peut faire nous, sauf qu'effectivement, d'habitude, ça ne se voit pas, en fait. Là, c'est juste que le film accepte de le montrer, en fait. Il accepte de montrer ce qu'on ne montre pas d'habitude, qui est gommé, justement, par... Et là, il y avait l'envie que le hors-champ soit dans le champ, et que ça se mélange. Et de l'assumer complètement et sans en faire trop non plus, sans que ça prenne toute la place, pour pas que ça devienne un film théorique. Oui, voilà. Après, ce que ça m'a permis de comprendre mieux le métier, je crois que ça m'a permis à moi, en tout cas, cette expérience m'a permis à moi de me déplacer, d'avancer sur. D'ailleurs, à l'échelle du film, en fait, c'est de moi-même, je me fais happer par la fiction, par l'envie de fiction.
Mais vous voyez ça comme candide ou culotté de se mettre ainsi dans le film?
J'imagine que c'est un peu les deux. Parce que en tout cas, je crois que c'est surtout très inhérent, en tout cas, à ce que l'histoire raconte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait la narration ne vient pas d'en haut, ce sont des personnages qui font avancer l'histoire par leur propre récit, en fait. C'est-à-dire que ils sont pas très aidés, ces personnages. Ils partent avec un point de départ très riche et un peu fou. Sauf que quand ils arrivent sur place, ils trouvent rien. Il ne leur arrive rien. Et penser un petit peu à ce qu'on fait quand on est enfant et qu'on s'invente des histoires folles. Et puis en fait, on patauge au bout de 3 minutes dans ce qu'on s'invente avec ses Playmobil. Et que pour continuer de faire avancer un récit, il faut le faire avancer par soi-même, en fait. Et donc il y a toute une première phase comme ça du film où c'est le personnage de ce garçon hanté par l'idée d'être la réincarnation de quelqu'un d'autre qui fait avancer le récit par ses croyances, par son obsession. Et puis comme tout échoue sur la route, il ne trouve rien. C'est le personnage joué par Adèle qui reprend les rênes et qui lui offre le récit dont il est le héros, en fait. Ce récit, elle décide d'y croire et d'y croire avec lui et de lui inventer cette histoire. Et ça, c'était... Et du coup, ça légitimait le fait de montrer comment la pensée s'exerce, comment on pense un scénario, mais pas avant le tournage. En fait, on le pense en direct, en fait. On le pense face à la caméra.
Vous aviez beaucoup de films, vous en avez coupé beaucoup au montage. Est-ce qu'il y a eu un gros travail là-dessus?
J'avais extrêmement peu d'heures de rush. C'est un long métrage, on a fait 21 jours de tournage, on est rentré avec 20 heures de rush. Ça veut dire qu'on a, en gros, moins d'une heure de rush par jour. Je me suis pas rendu compte qu'on tournait si peu, mais c'est vrai qu'on faisait des petites journées, on discutait beaucoup, on avançait comme ça. Donc c'est un film qui dure 1h30, donc on n'a pas beaucoup de marge, en fait. Donc oui, effectivement, on a beaucoup. C'est pas tourné monté, il y a du montage. Le film a suivi une vraie dynamique après derrière de post-production. Il y a un vrai montage, une vraie post-prod. Mais on avait peu de matière.
J'ai bien aimé l'aspect, justement, vous en parliez, cadeau, à tout niveau, cadeau par rapport à votre lien avec les pays qui sont dans le film, enfin la Bosnie-Herzégovine, et puis le cadeau, cinéma, enfin, et ce climat, à la fin, c'est celui qui épouse aussi le spectateur. Est-ce que vous saviez dès le départ que vous voudriez mener le film vers ce moment de réconciliation?
Oui, ça, c'était très clair, en fait. Je crois que c'est un film qui... et c'est peut-être pour ça qu'il peut être déroutant, c'est que c'est un film qui ne prend pas la réincarnation pour son côté mystique, en fait, mais plutôt pour son côté réconciliateur, c'est-à-dire se réconcilier avec l'idée de la mort, en fait. Du coup, je sais pas si j'y crois moi-même à la réincarnation, mais en tout cas, ça me fait du bien, ça me réconforte d'y croire. Et c'est un film qui avait juste cet objectif-là, en fait, de se réconcilier avec sa propre pérennité, en fait, la propre idée. Et pour ça, il y avait un geste d'amitié fort. L'amitié, c'est de l'amour, en fait, c'est juste une variante. Et je pense qu'on est plus fort, oui, quand on s'aime, et que ces personnages-là, par la force du lien, c'est quelqu'un qui, quelqu'un hanté par sa propre mort, en tout cas qui est dans une urgence de mort, quelqu'un qui est malade, et en face de lui, on a quelqu'un d'autre qui comprend cette nécessité de cette angoisse, hein, ce vertige, hein, de la mort, et qui va l'aider à mieux vivre le temps qui reste, en fait. Et je crois que le film, là-dessus, a toujours été très clair sur cette dynamique-là. Après, c'était plutôt sur comment on l'ancre, traverser comme ça les Balkans, sur qui d'autres douleurs, d'autres échelles de variations, en tout cas sur le deuil, sur la mort. Il fallait faire rentrer tout ça dans un film très très libre et très voilà qui s'écrivait en temps réel. Il y avait quelque chose du défi là-dedans, en tout cas de faire rentrer des thèmes si grands dans un espace si grand lui aussi en fait, où il fallait. Mais je crois que c'est très juste en tout cas de parler d'amitié pour ce film, oui.
En tout cas, moi, ça m'a épaté parce qu'effectivement, c'est super riche et les couches continuent à s'ajouter jusqu'au bout. Donc, bravo Audley Rapin pour ce film. Les héros ne meurent jamais.
Merci.
Et merci.
Merci à vous.
Fred Film Radio, Festival de Cannes, France.